le Darknet. Rien que le mot, ça fait un peu penser au film, non ?
Aux histoires d'espions.
Oui, c'est vrai, ça a cette image. Pourtant, c'est une réalité très concrète et qui a des implications sérieuses, surtout dans le monde du private equity. On se base aujourd'hui sur la fiche pratique IA Data numéro 12 pour y voir plus clair.
Exactement. L'idée, c'est de comprendre, en quelques minutes, ce que c'est vraiment et pourquoi c'est devenu un vrai sujet pour les fonds d'investissement.
Alors, pour commencer simplement, le Darknet, c'est quoi par rapport à l'Internet qu'on connaît ?
Bon, il faut voir Internet un peu comme un iceberg. Tout en haut, visible, c'est le web de surface. Google, les sites d'info, tout ça.
Ok, ça on connaît.
Ensuite, il y a le Deep Web. C'est la partie immergée, mais pas forcément cachée ou illégale. Pensez aux boîtes mail, aux bases de données internes d'une entreprise, aux intranets. Faut juste un accès.
D'accord. Et le Darknet, alors ?
Ah, le Darknet, c'est encore en dessous. C'est la partie intentionnellement cachée. Pour y aller, il faut des outils spécifiques, comme Tor, par exemple, qui sont conçus pour anonymiser les connexions.
Cet anonymat, il sert à quoi ? Pas qu'à des choses illégales, j'imagine.
Non, pas seulement. Il y a des usages légitimes, des journalistes qui protègent leurs sources, des dissidents dans des régimes autoritaires. Mais c'est vrai, ça attire aussi beaucoup d'activités illicites.
Comme le fameux Cybercrime as a Service, le CAAS.
Tout à fait. C'est devenu un vrai marché où on peut acheter des outils de piratage, des services d'attaque, des données volées. C'est ça qui le rend si accessible et donc dangereux.
D'accord. Et le lien avec le private equity alors ? Pourquoi un fonds devrait s'en préoccuper plus qu'un autre ?
Parce que les cibles, ce sont souvent les entreprises en portefeuille. Et les impacts pour le fonds sont directs. D'abord, le risque réputationnel, c'est énorme.
C'est-à-dire ?
Imaginez, les données sensibles d'une de vos participations se retrouvent en vente sur un forum du Darknet. Nom des clients, secrets industriels, l'image de l'entreprise, et par ricochet celle du fonds, en prend un coup terrible.
Oui, ça on voit bien. Et après, la réputation ?
Après, il y a le risque opérationnel. Très concret, on voit sur le Darknet des ventes d'accès. Des accès VPN, des accès RDP pour prendre le contrôle d'un poste à distance.
Ah oui, ça c'est la porte d'entrée pour une attaque en fait.
Exactement. Ça peut aller jusqu'à paralyser complètement l'activité de l'entreprise. La fiche pratique insiste beaucoup là-dessus.
Et j'imagine que ça débouche sur des problèmes juridiques, le RGPD, tout ça.
Bien sûr. Le risque juridique, si des données personnelles fuitent, la non-conformité au RGPD peut coûter très cher. Sans parler de la négligence si on prouve que le fonds ou l'entreprise n'a rien fait pour prévenir.
Réputation, opérationnel, juridique, ça fait déjà beaucoup.
Et il y a encore le risque stratégique. Pensez à des documents confidentiels, genre des plans de R&D, des pitchs d'investisseurs, des infos sur un deal en cours. Si ça fuite avant l'heure, ou si un concurrent met la main dessus via le Darknet.
Ça peut faire capoter une opération ou donner un avantage déloyal.
C'est clair. Voilà. Donc, les enjeux sont vraiment multiples pour un acteur du PE.
C'est vrai que vu comme ça, c'est assez préoccupant. Mais comment on détecte ces menaces qui sont, par définition, cachées ? Vous parliez de signaux faibles.
Oui, il faut être attentif. La fiche pratique donne des exemples. Ça peut être le simple fait que le nom de domaine d'une société du portefeuille soit mentionné sur un forum suspect sur Tor. C'est un signe qu'elle est peut-être ciblée.
Juste une mention ?
Parfois, ça commence comme ça. Ou alors trouver des identifiants, des emails et mots de passe de collaborateurs dans des bases de données piratées qui circulent. C'est un risque direct d'usurpation d'identité, de phishing ciblé.
Mmh.
On peut aussi voir des offres de vente très spécifiques. Accès RDP pour telle entreprise, base de données clients de telle société. Voir des documents internes, des rapports, des présentations marqués confidentiels.
Même une simple adresse email générique, type l'adresse pour les relations investisseurs, peut être un signal.
Oui, si elle est utilisée massivement dans des campagnes de phishing très ciblées contre le fonds ou ses partenaires. Ce sont tous ces petits indices qui, mis bout à bout, doivent alerter.
D'accord. Donc, face à ces menaces diffuses mais réelles, qu'est-ce qu'un fonds peut faire ? Quelles sont les recommandations ?
Alors, l'approche doit être structurée. Premièrement, mettre en place une veille spécifique au Darknet. Souvent, ça passe par des outils ou des partenaires spécialisés qui vont scanner ces espaces à la recherche de mentions, des participations, d'identifiants, etc.
Une sorte de radar, quoi.
C'est un peu ça. Deuxièmement, il faut auditer régulièrement la surface d'attaque numérique des entreprises en portefeuille. Quels sont les emails exposés ? Quels ports sont ouverts ? Est-ce que les VPN sont bien configurés ?
Et l'humain dans tout ça ? La technique ne fait pas tout, j'imagine ?
Ah non, c'est crucial. La sensibilisation. Il faut former les équipes du fonds, celles qui font les deals, qui gèrent le portefeuille, même les relations investisseurs, à reconnaître ces fameux signaux faibles.
Et lors d'une acquisition, d'un nouveau deal ?
C'est le quatrième point. Intégrer le risque Darknet dans les due diligence IT et cyber. Avant d'acheter, il faut évaluer l'exposition de la cible. Est-ce qu'on trouve déjà des choses sur elle dans le Darknet? Quel est son score de risque?
Logique. Et si on trouve quelque chose?
Alors là, il faut avoir un plan de réponse. Qui est alerté? Comment on communique? Quelles sont les actions juridiques, techniques? Faut pas être pris au dépourvu.
La fiche pratique donne un exemple concret, je crois, sur une cible tech.
Oui, un cas d'école. Lors de l'audit d'une cible, une boîte de logiciels B2B, on découvre quoi? Des identifiants d'employés dans des leaks. Un accès VPN administrateur potentiellement en vente. Et même un document stratégique sur un forum.
Aïe! Et là, on fait quoi?
D'abord, on analyse sérieusement l'alerte. Est-ce que c'est du vent ou un vrai risque? Ensuite, discussion franche avec le CTO, le directeur technique de la cible, pour voir comment il gère ça.
Et ça impacte le deal lui-même?
Ah oui, directement. Il faut évaluer l'impact sur la valorisation. Est-ce que ça justifie une baisse de prix? Et surtout, négocier des garanties spécifiques dans le contrat de cession, le SPA. Puis, bien sûr, prévoir un plan d'action pour corriger tout ça juste après le closing.
Ça montre bien le lien direct entre une découverte sur le Darknet et la transaction elle-même.
Tout à fait. Ça passe du virtuel au très concret.
Bon, si on résume les points clés à retenir de tout ça. Le cybercrime as a service, ça démocratise les attaques. Le Darknet, c'est pas juste immense, c'est surtout dense en informations stratégiques.
Oui, et même si l'anonymat n'est pas total, il y a des démantèlements, des enquêtes, ça reste un défi majeur. La bonne nouvelle, c'est que certains fonds commencent vraiment à intégrer cette surveillance activement.
C'est rassurant. Au final, le Darknet, ce n'est plus cette menace un peu abstraite et lointaine.
Non, clairement pas. C'est une composante à part entière du paysage de risque numérique aujourd'hui.
Ce qui amène peut-être une dernière réflexion. Est-ce que la maturité d'une entreprise face à ce risque Darknet, sa capacité à le gérer, ne pourrait pas devenir un critère de valorisation en soi dans le private equity demain?
C'est une excellente question. On voit déjà des éléments de cybersécurité influencer les valorisations. L'exposition Darknet pourrait bien en devenir un aspect de plus en plus scruté. C'est une piste intéressante pour l'avenir.
Une perspective importante pour conclure notre exploration. Merci beaucoup d'avoir démystifié un peu ce sujet complexe.
Avec plaisir.